Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abras le corps.
Bonjour, chers auditeurs. En reprenant le fil des sujets se rapportant aux visions de la maternité, j'ai choisi dans cet épisode de démêler les contextes historiques dans lesquels ont pu se façonner l'injonction à la reproduction liée à de nombreuses reconfigurations dans les représentations et les rapports de pouvoir. D'où vient donc de considérer la maternité comme si naturelle et de si peu se questionner sur le fait de faire ou non des enfants? Il peut sembler naturel que les êtres humains se reproduisent. Après tout, tous les êtres vivants agissent ainsi, selon ce que certains savants nomment l'instinct de reproduction, permettant à chaque espèce de se perpétuer. Mais comme souvent, l'argument naturel est ambigu et dangereux. C'est marrant de voir comment il est toujours utilisé pour justifier a posteriori certains comportements, alors que des générations et générations de savants plus ou moins autoproclamés se sont acharnés à séparer l'être humain du monde animal au nom d'une supériorité de l'intelligence, de la conscience de soi, ou de la capacité à faire des choix. C'est souvent les mêmes qui remettent en avant un instinct de reproduction de tout ce qu'il y a de plus animal pour justifier la norme reproductive. Je ne vais pas me lancer sur le débat obscur autour de la réalité de cet instinct. Il est communément admis, en tout cas, que l'appel à la reproduction ne se manifeste pas chez nous par des périodes de chaleur comme chez beaucoup de nos amis les animaux. Il sera admis aussi que la reproduction ne fait pas nécessairement partie des premières motivations à un rapport sexuel chez beaucoup d'êtres humains. De même que beaucoup d'autres ne ressentent absolument pas le besoin ni de se reproduire, moi compris, ni non plus d'avoir des relations sexuelles pour les personnes asexuelles. Est-ce que cet instinct a un jour existé? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr par contre et pour lequel j'ai effectué beaucoup de recherches pour ce podcast, ce sont toutes les couches de discours politiques et de normes sociales qui nous ont poussés à considérer la reproduction comme quelque chose de naturel et de nécessaire et qui dépasse largement la candide perpétuation de l'espèce. En effet, comme on va le voir, les injonctions à la maternité ne se sont absolument pas manifestées de manière uniforme, selon les pouvoirs en place, les périodes et le type de population que l'on prend en compte. Dans cet épisode, je vais focaliser sur une construction plutôt occidentale de certaines maternités, progressivement érigées en modèle naturel. Pour que celle-ci s'érige en modèle dominant, il a bien sûr fallu qu'il y ait en miroir d'autres corps usés à d'autres fins, et notamment les corps des personnes colonisées. Ce qui revient le plus dans l'histoire récente des États modernes, c'est la nécessité de garder la maternité comme norme afin d'assurer la reproduction de leur population. Pour Françoise de Beaune, un peu l'une des seules et premières théoriciennes de l'écoféminisme en France dans les années 70, la norme de la maternité est intrinsèquement liée au mouvement historique d'appropriation et de contrôle des corps des assignées femmes par les corps s'assignant hommes. Elle fait remonter ce phénomène à la période du néolithique. Tout comme mis en avant par d'autres écoféministes, telles que les États-Uniennes Star Hawk et Caroline Merchant, au sein de nombreuses sociétés humaines, l'enfantement était souvent perçu comme magique. Les premières spiritualités vouaient ainsi un culte au corps utérin, considéré comme devant interagir avec une puissance divine pour permettre le miracle de la vie. Souvent considéré également comme porteur de la fécondité des terres, cela expliquerait les nombreuses statuettes et autres traces retrouvées attribuant le pouvoir de la vie à des divinités, entre guillemets, féminines. Puis, des individus à phallus ont commencé à faire le rapprochement entre l'acte sexuel pénétrant et la reproduction de la marmaille. Ils s'attribuèrent alors tout le mérite de la chose, dans un total renversement de situation. Ce retournement s'opéra à renfort de justifications assez douteuses, voyant dans les différentes anatomies la confirmation même du rôle actif des personnes à phallus, là où les personnes à vulve ne seraient que des réceptacles passifs. Cette représentation de la reproduction va d'ailleurs perdurer jusqu'au XIXe siècle, où se déroule alors une bataille théorique scientifique entre les défenseurs du phallus comme seul vecteur de reproduction et les défenseurs du rôle joué par les ovules et ovaires féminines. Dites féminines. Dans l'épisode 31 des couilles sur la table de Victoire Tuaillon sur Binge Audio, le professeur Thierry Hoquet parle d'une représentation animiste de l'homme pénétrant la femme qui se retrouverait même dans la projection mentale collective de spermatozoïdes transperçant une ovule qui serait totalement passive alors qu'il s'agit en réalité, on le sait maintenant et on le reconnaît, d'une interaction entre les deux gamètes.
Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à M. Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Mme Poulain, née Amandine Fouet. 9 mois plus tard naissait Amélie Poulain.
On voit bien l'influence et les manipulations respectives entre les discours scientifiques et les représentations sociales. Dans ses écrits, Françoise de Beaune associe le changement de représentation quant à la reproduction humaine à une période de bouleversements économiques et sociaux, s'appuyant sur un important changement des formes d'agriculture, qui passerait notamment de la houe à la charrue. Ce changement de pratique s'inscrit dans un phénomène plus large de sédentarisation d'une importante partie des groupes humains, caractéristique de cette période du néolithique. D'après Françoise de Beaune, le passage à la charrue fait de l'agriculture une pratique de plus en plus masculine. Néanmoins, on peut critiquer cette analyse de Françoise de Beaune qui ne donne pas de repères historiques très précis et ne prend pas en compte les spécificités géographiques et culturelles. Elle n'explique pas réellement pourquoi les pratiques agraires précédentes telles que la houe étaient essentiellement pratiquées par des assignées femmes et pourquoi et comment la charrue s'impose de manière aussi évidente comme une pratique dite masculine. De plus, comme l'ont montré de nombreux autres écoféministes, et notamment les travaux de Silvia Federici, durant les siècles qui suivent jusqu'à la fin du Moyen-Âge, de nombreux groupes de personnes vont continuer à travailler la terre sans distinction de genre particulière. Cela ne signifie pas, bien sûr, que le patriarcat et les socialisations différentes selon le genre n'existaient pas. Cependant, elles ne se marquaient pas de la même manière selon le groupe social. Les écrits de l'écoféministe et sorcière néo-païenne états-unienne Star Hawk offrent davantage de précision en la matière. Dans le premier appendice de son ouvrage « Révèle obscur », l'autrice, en remontant les origines de la chasse aux sorcières, fait elle aussi de ce changement de pratique agricole un tournant majeur, non seulement dans l'organisation politique et économique des sociétés européennes, mais plus largement comme une mutation profonde des conceptions idéologiques, sociales, philosophiques, bref, un véritable bouleversement des paradigmes. Ce basculement des représentations aurait plutôt émergé selon elle à la fin du 15e siècle, siècle auquel on attribue le passage de l'époque médiévale à celle de la Renaissance. C'est en effet le siècle des premières grandes critiques à l'encontre de l'Église catholique, l'Église avec un grand E, annonçant la réforme protestante du siècle à venir. La crise rencontrée par l'Église catholique est d'autant plus existentielle que la plupart des innovations scientifiques de l'époque viennent contrecarrer les mythes fondateurs de la religion chrétienne. En démontant l'idée du soleil qui tournerait autour de la terre et du petit nombril humain, Copernic donne un grand coup de pied dans les fondements de la religion chrétienne. L'être humain perd de son statut de créature extraordinaire qu'un dieu aurait conçu à son image et placé au cœur de ses préoccupations. L'humanité européenne entre en crise dans l'ensemble de ses valeurs, appelant les élites intellectuelles, politiques et religieuses de l'époque à chercher de nouveaux modèles susceptible de redonner confiance au pouvoir et à l'exceptionnalité de l'être humain. Caroline Marchand a étudié le puissant basculement des perceptions du monde. Rompant avec les rites et les conceptions vernaculaires, c'est-à-dire plus du peuple populaire, où l'être humain ne se pensait pas nécessairement comme une entité distincte du reste de son environnement, les penseurs de l'époque, tels que le fameux philosophe Descartes ou encore Bacon, viennent prôner un certain type de rationalité. Celle-ci s'entend dans une doctrine dualiste et hiérarchique des choses, c'est-à-dire une manière de tout structurer autour de deux principes, d'où le terme dualiste, qui seraient opposés, comme l'esprit et le corps, la culture et la nature, mais avec toujours l'un supérieur à l'autre, l'esprit supérieur au corps, la culture supérieure à la nature, et on le verra, l'homme supérieur à la femme, les blancs supérieurs au corps colonisé, racialisé, etc. À partir de ce nouveau modèle de représentation, se structure l'ensemble des valeurs associées aux dominants masculins, tels que la force, le contrôle, l'expansion sans limite. Au contraire, toutes les valeurs inverses de celles-ci vont être envoyées à une construction du féminin, associée à la fragilité, à l'irrationalité, à l'instabilité. Plus généralement, comme le souligne Caroline Marchand, le monde jusque-là considéré comme un, je cite, « organisme vivant », associé à une figure maternelle et nourricière, fin de citation, et donc avec lequel les êtres humains entretiendraient des rapports immédiats et organiques depuis l'Antiquité, cette vision va se transformer pour laisser advenir une autre conception, celle de la nature et de la terre notamment, comme une entité séparée et passive, que l'humain peut utiliser, exploiter à sa guise, grâce à la supériorité de son esprit et de ses connaissances. La figure nourricière, qu'il s'agisse de celle de la nature ou des corps assignés femmes, n'est plus valorisée en tant que telle, mais vue comme une ressource à contrôler et à faire fructifier.
Oh Pachamama, tes enfants sont tous rassemblés ici afin de t'honorer et te remercier pour ces belles récoltes.
Notre Waka protège notre village, le plus précieux de nos trésors.
Le seul qui protège votre village, c'est le grand Inca. Cette idole vous rend stupide, je vous la confie.
Vous ne pouvez pas faire ça.
Ils prennent toutes nos réserves.
On n'a plus rien à manger.
Grand Condor, aide-moi à retrouver la Waka.
Et c'est ce que Starhawk appelle le phénomène de mise à distance, qui structure l'ensemble de nos philosophies et de nos modes de vie en Occident, encore aujourd'hui. Cette façon de voir le monde s'oppose à une vision immanente du vivant, telle qu'elle subsiste encore dans certaines cosmologies non occidentales, ce que Philippe Descola a décrit par exemple comme étant les philosophies animistes. En gros, jusqu'ici, les différentes cultures, croyances, représentations ne faisaient pas tant de séparation entre les choses. L'être humain était parti d'un tout, et de tout plein d'interactions. On ne cherchait pas tant à l'associer à un genre ou à une autre caractéristique identitaire particulière. On ne faisait pas de distinguo entre la culture humaine et l'environnement naturel. Mais avec les penseurs de la rationalité comme Descartes, va se répandre une nouvelle vision des choses du monde qui fonctionnerait selon des mécanismes précis, des sortes de machines qui devraient avoir des buts. D'où le terme de philosophie mécaniciste. On se met à tout délimiter, aussi bien géographiquement, socialement, biologiquement, et on fait comme si ces limites et ces étiquettes avaient toujours existé. L'être humain, et surtout celui qu'on représente comme l'homme blanc, devient une chose extérieure et supérieure à toutes les autres. C'est cette vision que l'on retrouve partout dans nos sociétés occidentales aujourd'hui. Rien que le fait de tout fragmenter dans notre manière de faire de la politique, avec d'un côté l'économie, de l'autre les transports, à côté la santé puis la sécurité, comme si chaque chose existait en tant que telle, indépendamment des autres. Même l'écologie est considérée comme un domaine, un bloc à part, qui pourrait se rationaliser, se mesurer et s'organiser sous la forme de ce fameux, je cite, « développement durable ». Vous sentez l'ironie dans ma voix ? On conçoit les dites choses de la nature comme des choses inertes qu'on pourrait contrôler, stocker, exploiter, et puis les renouveler comme on jouerait avec n'importe quel sac de billes. À ce propos, ce que je trouve le plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui la physique quantique, qui pourrait être vue comme LA science suprême, s'oppose à cette vision de voir les choses comme de simples petits bouts de matière séparés. Au contraire, matière et énergie seraient des facettes d'une même chose, et que tous les éléments physiques seraient plutôt en constante interconnexion. Bon, après, je simplifie, c'est bien plus complexe, on le sait. En réalité, en fait, il n'y aurait même pas vraiment de matière d'un côté et d'énergie de l'autre. Cette vision rejoint les croyances populaires animistes que la Renaissance a largement décrédibilisées. L'idée pour les nouvelles élites montantes à cette époque, élites occidentales en son temps, c'était également de jeter le discrédit sur ces visions du monde pour désamorcer les révoltes populaires, les révoltes notamment des territoires qui étaient en train de se faire coloniser, et de simplifier ainsi la manière de voir les choses et de justifier la création de leurs différents champs de pouvoir. Concernant cette mise à distance, Starhawk donne quelques exemples de l'imprégnation de ce nouveau système idéologique apparu à partir du XVe siècle dans nos discours et nos pensées actuelles. Aujourd'hui, on pourrait ressentir la mise à distance de manière encore plus concrète et tangible, car nous sommes séparés physiquement. Nos liens organiques, nos célébrations, nos événements, nos rituels culturels modernes, ciné, théâtre, concerts sont suspendus, taxés de secondaires par les pouvoirs en place. La crise du coronavirus nous fait aujourd'hui atteindre un degré supplémentaire de ce que Starhawk appelait la perte d'un sens du sacré du monde. Mais enfin bref, pour en revenir à notre époque de la Renaissance, c'est dans cette perspective de mise à distance et de contrôle des ressources vues comme extérieures que les individus se trouvent peu à peu expropriés de la compréhension plus sensible qu'ils pouvaient avoir de leur interaction avec le reste des choses, de leur savoir, et du même temps de leur possibilité de décider de leur propre corps, de la forme, de l'apparence, du genre de ces corps, de ses méthodes d'accouchement, de sa douleur ou non, de son allaitement ou non. Les sorcières, en tant que figures emblématiques de l'ancienne perception des choses, de la nature, des émotions, des sensations, etc., sont traquées et éliminées, leur savoir brûlé avec elles. De même, les personnes qui refusaient un peu de rentrer dans ces nouvelles normes sociales de la famille, du couple, et de se soumettre en fait à la vision de l'homme cis blanc hétéro obsédé par la reproduction de son espèce. D'où les nombres de lesbiennes célibataires, entre guillemets folles ou vieilles sur les bûchers. La connaissance des choses ne peut tolérer autant de méthodes et de représentations différentes. Tout est progressivement capté par une nouvelle élite bourgeoise qui structure peu à peu un corps médical qu'elle entreprend du même temps de légitimer sous l'académisme de la science. On va quand même finalement autoriser peu à peu les assignées femmes à prendre en charge certaines tâches en lien avec le médical, mais toujours les tâches jugées ingrates, trop en lien avec le corps. La difficulté des sages-femmes à faire reconnaître leur profession aujourd'hui est l'un des exemples de ce lourd héritage historique. Bon, on voit bien que les changements de perception de la reproduction des êtres humains s'ancrent dans un bouleversement bien plus global du rapport au monde au moment de la Renaissance. Mais quel rapport avec les changements de méthodes d'agriculture? Au même moment, les terres européennes connaissent une baisse de leur fertilité, tandis que la conquête du continent américain et les débuts de l'extraction des mines d'or suscitent une énorme inflation. De tels bouleversements poussent à renouveler les formes d'agriculture. Les propriétaires fonciers se mettent alors à fragmenter les terres et à en exproprier leurs paysans-paysannes. Les terres en question sont clôturées pour se consacrer massivement à l'élevage. Les vieilles coutumes sont peu à peu abandonnées au profit d'une exploitation de plus en plus massive des bois. C'est le phénomène des enclosures en Angleterre. Alors que la religion catholique prônait un idéal de sobriété, en répondant l'idée que seul l'au-delà serait porteur de meilleurs destins, le calvinisme et l'anglicanisme d'Henri VIII, mixture religieuse assez spécifique, accusent de nombreux membres de l'Église catholique de manipuler les fidèles pour s'enrichir sur leur dos. À l'inverse de cette dernière, les religions protestantes encouragent l'accomplissement dans la vie terrestre par le travail de la terre, matérialisé par le profit. L'argent, qui n'était jusque-là qu'un moyen d'équilibrer les échanges, est peu à peu érigé comme une valeur en soi. Les paysans les plus riches ne souhaitent plus se contenter de l'usufruit des terres, c'est-à-dire de simplement travailler sur des terres prêtées par le Seigneur en échange d'impôts et de protections. Ils veulent leur lopin et leur voix au chapitre dans les décisions du pays. C'est ce mythe-là même de l'enrichissement qui pousse les pilgrims, pauvres et persécutés d'Europe, à s'embarquer en quête des richesses pour le « entre guillemets nouveau monde ». L'idée n'est plus de produire seul les besoins de la communauté, mais de produire des biens exportables dont l'acquisition d'une certaine monnaie en échange permet à son tour l'achat d'autres denrées produites sur des territoires éloignés. Ainsi, la valeur d'échange remplace celle du strict usage et de la stricte immédiate utilité. Ainsi, les agricultures relativement diversifiées cèdent la place aux monocultures avec tous leurs impacts sur les écosystèmes. Ainsi, se structure le capitalisme foncier, puis marchand. Propriété et profit viennent remplacer les anciennes valeurs féodales. La carotte est pourtant bien maigre pour l'ensemble des bouches qui réclament, mais chacun chacune continue de transpirer sur un mode ascétique, c'est-à-dire de privation, et méritocratique, accroché à l'espoir de pouvoir rejoindre les quelques élus, tandis que les groupes sociaux et politiques en pleine ascension s'assurent que la production continue sans limite. Bien entendu, les déséquilibres économiques et les inégalités sociales s'accroissent. Tandis qu'on invente de nouvelles machines pour tenter de massifier cette agriculture, les corps que l'on étiquette de plus en plus comme féminins sont alors de moins en moins jugés essentiels au maintien des rendements et peu à peu renvoyés au sein de la sphère privée. C'est le début de, tout simplement, de la division genrée du travail, de même qu'il y a la division colonial du travail.
Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore, à l'heure de votre mort, je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur, quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans.
Face à la précarisation croissante, tandis qu'une première forme de salariat se met en place, les personnes désignées femmes se voient astreintes au rôle de nourrir et de s'occuper des enfants, au moins dans les premières années de leur vie, jusqu'à temps qu'elles puissent travailler. Se met en place le concept d'héritage comme un phénomène éminemment masculin. Et si vous vous rappelez du début du podcast, puisque donc les enfants sont le seul fruit de leurs entrailles et les productions agricoles le seul fruit de leur main-d'œuvre, tout est là pour justifier un héritage d'homme à homme, évinçant tous les corps dits féminins de la transmission patrimoniale, le terme de patrimoine renvoyant lui-même au latin pater, le père. Vous le voyez là, le patriarcat? Dans ce même mouvement de structuration des terres agricoles, de centralisation des richesses et donc de constitution progressive des États modernes, l'injonction à la reproduction est logique pour assurer le renouvellement de la main-d'œuvre et alimenter les forces de conquête des nouveaux territoires. Le ventre des assignées femmes devient l'outil premier de la structuration des puissances européennes. Le corps assigné femme, auquel on nie toute capacité morale et intellectuelle, et renvoyé à ce qu'il y a de plus vil chez l'être humain, c'est-à-dire à une sorte de corps sans véritable esprit. Ce changement de perception du corps assigné féminin, renvoyé à l'injonction à la reproduction, s'ancre dans un bouleversement des normes de sexualité. La nouvelle organisation du travail disloque les liens familiaux et permet l'infusion d'imaginaires particulièrement misogynes. Renvoyées à leur ventre, les personnes assignées femmes se retrouvent rabaissées à un rang d'objet. Elle se voit du même temps nier tout droit au plaisir de la chair, une fois admis qu'un tel plaisir n'influe en rien la réussite ou non de la fécondation. Pour Norman O'Brien, dans Life Against Death, le fait de nier la chair et l'ensemble du corps associé au féminin est une façon de nier la mortalité de l'humaine condition. La misogynie est aussi un moyen de s'en prendre à l'immanence, de se venger d'une figure maternelle frustratrice selon Starhawk. Bah oui. Parce qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi c'est ces autres corps qui portent les bébés. Le travail de reproduction ne jouit d'aucune valorisation sociale et d'aucune rétribution financière quelle qu'elle soit, contrairement au travail dit productif. Le mariage, qui jusque-là était essentiellement un partenariat d'affaires, devient désormais un achat des individus du genre masculin, de ces objets que sont devenus les personnes assignées au genre féminin, poussées à se vendre elles-mêmes par des mécanismes de dot. À partir du XVIIIe siècle, l'individu du genre masculin, davantage extrait, se retrouve de plus en plus extrait de l'unité familiale, passant le plus clair de son temps au champ ou à l'usine. Il est de plus en plus obligé de se loger hors du foyer et se trouve davantage perméable au discours de méfiance à l'égard des femmes, présentées comme naturellement fourbes, susceptibles de ne pas assez se conformer à leur assignation de genre, de ne pas assez se soumettre au primat du père. Alors même qu'émergent de nouveaux cercles masculins qui recourent à l'alcool et aux travailleuses du sexe pour s'évader de leur sort, les discours philosophiques, scientifiques et religieux qui arguent de l'infériorité morale et intellectuelle des femmes trouvent un écho particulier dans les représentations populaires divisant les classes d'opprimés pour mieux régner. En écho à la chasse aux sorcières du XVIe et du XVIIe siècle, toutes les assignées femmes estimées rebelles, infidèles, les célibataires, celles à qui l'on attribue une sexualité non normée, trop libre, homosexuelle, trop vieille ou autre, se retrouvent placées sous la même bannière qui jusqu'au XXe siècle va peu à peu constituer un imaginaire de la peur. Femmes, pauvreté, foule et alcool, cette phobie, toujours imprégnée de haine, émerge sous des formes différentes et avec des degrés de violence différents selon que les corps soient racisés, handicapés, désignés comme fous folles. Bref, tout ce que les élites en place craignent de ne jamais assez contrôler.
M'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé, putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous.
En termes de normalisation de la sexualité au profit de la reproduction, l'anthropologue Paola Tabet attribue à la reproduction forcée le rôle de base d'organisation de nombreuses sociétés. D'après ses travaux, ce mécanisme suit deux principes essentiels. D'une part, il y a le dressage au coït. C'est là la base du régime hétéronormatif. La personne assignée au sexe féminin se voit forcée physiquement ou bien pressionnée socialement par différentes formes de normalisation, notamment au sexe avec idée de visée reproductive, c'est-à-dire au viol.
C'est une séparation qui, dès les sociétés plus simples, peut se voir un peu comme une séparation de classe. Les niveaux d'accès au bien et d'accès au repos, d'accès à la pensée sont bien différenciés. Tout ça est extrêmement lié à l'organisation sociale de la famille et de la reproduction aussi, dans le sens que les filles sont en général, dans presque toutes les sociétés, sont obligées de se marier très très jeunes, le plus souvent totalement contre leur volonté. Le sexe lui est imposé carrément, d'un côté souvent par les coups, mais de l'autre côté par une forme de persuasion. C'est-à-dire on lui dit, si tu n'acceptes pas ce mari, qui va te donner à manger ? C'est ce que j'appelle échange économico-sexuel, c'est-à-dire un échange basé du côté de l'homme, donner quelque chose, dans ce cas-là, l'accès aux viandes, à la viande, et du côté de la femme, accepter bien ou mal le sexe. Cette dépendance, qui est une dépendance matérielle, qui est une dépendance due à une interdiction d'utilisation des armes, à un moment donné se double d'une forme de reconnaissance, de dépendance psychologique. Le mari est le mari nourricier. Il y a une violence extrême dans ces rapports et en même temps, c'est vraiment un ensemble assez complexe de conditionnement, qui est un conditionnement qui devient de l'affection aussi. C'est vraiment un mélange, on dirait bizarre si on ne le connaissait pas de très près.
D'autre part, des individus masculins mettent en place une surveillance de la fécondation de la grossesse à l'accouchement. Selon Paola Tabet, je cite, certaines sociétés connaissent ou croient connaître le moment fertile et en jouent. D'autres tentent de réduire la période d'allaitement, connue pour être infertile, soit en faisant appel à des nourrices, soit en pratiquant l'infanticide des filles. Fin de citation. De ce contrôle du corps des assignées femmes et de la fécondité découle ensuite l'ensemble des normes sexuelles, aussi bien en termes de pratiques, hétéronormées et focalisées sur la pénétration, des personnes autorisées à pouvoir rechercher ou non le plaisir, qu'en termes de nombre et profil de partenaires, érigeant la monogamie en norme ou bien ne tolérant que la polygamie pour les assignés hommes, afin notamment de ne pas flouer les systèmes d'héritage, mettant en place des régimes d'interdiction de l'inceste. De manière générale, la sexualité féminine est peu tolérée en dehors des nécessités reproductives ou de la satisfaction du plaisir de l'homme dans le cadre de la prostitution. En outre, l'exotisation et l'hypersexualisation des corps des femmes noires est un héritage direct des constructions racialistes, de la colonisation et du néocolonialisme. Le corps des assignées femmes blanches était utilisé comme outil de reproduction de la « entre guillemets race blanche ». Les autres corps, eux, étaient utilisés pour tout le reste des fins de domination et de destruction sexuelle, autant que pour la reproduction de la main-d'œuvre. Jusqu'au XVIIIe-XIXe siècle, lorsqu'elle est tolérée, la sexualité féminine reste le plus souvent cantonnée à une classe d'âge jeune, le passage du mariage devant amener à une transition vers une vie d'adulte. Cette perception reste encore relativement dominante aujourd'hui. On témoigne encore le chemin long et sinueux pour que l'opinion publique considère les actes de personnes publiques comme Matzneff et autres comme des abus sexuels. la sexualité dite féminine est encore peu envisagée et évoquée en dehors des liens du mariage hétéronormé, de la reproduction et d'une certaine limite d'âge, préménopause.
J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous mon pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, je ne serai pas noyée.
Bon, c'était une première partie historique. D'autres épisodes suivront pour revenir sur la construction de l'injonction à la maternité et des différents discours sur la maternité. D'autres hors-séries arrivent aussi. Continuez à prendre soin de vous et à vous ouvrir l'esprit. Très belle semaine et à très vite sur À Bras le Corps.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
À Bras le Corps.